Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Watchlist. Je m'appelle Babar et aujourd'hui je vais vous parler d'une série Netflix, Formula 1 Drive to Survive, aussi appelée Formule 1 Pilote de leur destin en France. Il s'agit d'une production Netflix et est donc disponible sur la plateforme Netflix. C'est une série qui a débuté en 2019, il y a actuellement 6 saisons avec 10 épisodes par saison pour une durée oscillant entre 30 et 50 minutes. Alors, ça parle de quoi Formula 1 Drive to Survive ? Eh bien, comme son nom l'indique, vous vous en doutez, ça parle de Formule 1. Oui, c'est une série documentaire et pas une fiction, même si on reviendra sur ce détail plus tard. Chaque saison de cette série revient sur la saison précédente de Formule 1. Par exemple, la première saison sortie en 2019 revient sur la saison de 2018. Dans Drive to Survive, nous allons donc suivre les différentes équipes des différentes écuries, que ce soit les pilotes, les mécaniciens, les chefs d'équipe, etc. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que les équipes de Netflix ont l'autorisation d'aller assez près des différentes équipes, par exemple, on peut les voir sur le paddock, mais également dans la vie personnelle des différents pilotes, également des chefs d'équipe. Alors bien évidemment, on revient sur les différentes courses, on peut voir les grands moments avec les fameux dépassements, les fameux accidents malheureusement aussi, mais également quelques événements un peu parfois insolites sur des mauvais réglages, ou par exemple Ferrari qui fait encore une mauvaise décision, enfin des choses comme ça, des petits exemples pris au hasard. Mais en vrai, la vraie raison pour laquelle on regarde Drive to Survive, c'est pas forcément ces jolis plans de Formule 1. Oui, il y a vraiment un beau travail fait sur la mise en scène, sur le son, sur l'image. Il y a des ralentis assez incroyables. On a vraiment des instantanés pleins d'émotions, que ce soit de la rage, que ce soit de la tristesse, mais même de l'émotion pure de victoire. Mais en vrai, là où ça devient assez intéressant Drive to Survive et pourquoi c'est une série qui est déjà culte, c'est à quel point en fait c'est du drama. Et c'est du drama non pas... un petit peu, c'est du drama à 2000%.
Attends, Babar, t'as parlé de drama, là ?
Oui, Aline, oui, je parle de drama, pourquoi ?
Ah bah, moi, j'aime bien les dramas, tu sais bien.
Oui, c'est vrai, et en plus, attends, tu connais, toi, en plus, toi, Formula 1 Drive to Survive ?
Tu parles de Vroom Vroom to Survive ?
Ouais, c'est ça, Vroom Vroom to Survive, ouais. Bah, viens, on va en parler tous les deux.
Ouais, ok.
These guys have an almost fighter pilot mentality, and that's what separates them from mere mortals.
All I ever do is pray for a safe race. I never thought that I'd be there one day watching my son.
For me, it's heart attack after heart attack.
Are you okay, Nico?
Yeah, there's fire.
Love the danger, that adrenaline and that excitement.
They have crashed! They've gone into each other!
I'll do anything I can to get the best results possible. I'm not worried about dying.
Alors, je m'incruste dans l'épisode de Babar. Moi, c'est Aline. Vous m'avez déjà entendu de Watchlist, mais vous m'entendez aussi sur d'autres podcasts du label Podcut. Et donc, comme j'aime bien les dramas asiatiques en général, mais là, ça reste du drama, je m'incruste. Voilà.
Et tu fais bien, au contraire, parce que c'est ça la vraie force de Drive to Survive. Ouais, il y a des plans vraiment très cool, on voit des victoires, j'ai appris beaucoup de choses, même y compris sur la Formule 1, à quel point c'était beaucoup plus tactique et beaucoup plus technologique qu'on pourrait le croire, bon, même si on s'en doute un peu vu à quel point maintenant la stratégie, les stats et tout, ça fait totalement partie maintenant du sport en règle générale, mais je m'attendais absolument pas à complètement connaître maintenant les différents pilotes, à connaître les différents chefs d'écurie, également les grands noms maintenant qui représentent ce sport.
Tu vois, moi, la Formule 1, j'en avais encore cette image d'Épinal quand il y avait encore le circuit de Nevers-Manicourt quand on était tout petit et que Par ces longs dimanches de repas de famille interminables, on nous mettait TF1 avec le Grand Prix du jour. Eh bien, c'était bien, comment dire, bien long, bien inintéressant du haut de mes 6-7 ans. Et avec Netflix, avec Vroom Vroom to Survive, et puis le drama, je le rappelle, eh bien là, j'ai découvert ce sport. Et comme tu le disais, vraiment, voir ce qu'il y a derrière, voir un peu l'humain, voir toute la technologie, l'innovation qu'il y a derrière juste ces voitures. Parce que moi, j'avais juste l'image de voitures qui faisaient beaucoup de bruit et qui tournaient en rond, enfin sur des circuits qui ne sont pas si ronds. Et je n'en voyais absolument pas l'intérêt.
Alors je te rassure, pour moi c'est pareil, je n'en voyais pas l'intérêt. Et même après cette série, je n'ai toujours pas forcément envie de regarder un Grand Prix. Un petit peu plus quand même, je ne vais pas mentir. Mais c'est plus pour les pilotes et pour ce qu'il va y avoir comme discussion avant et après. Parce que, ouais, moi alors, je ne suis pas du tout fan de course automobile. J'ai dû en regarder comme toi quand j'étais jeune, comme tu as dit, hein, le dimanche, il y avait les Grands Prix sur TF1. Puis au bout de un ou deux, on regardait le début, on voyait s'il y avait un crash, parce qu'il faut l'avouer, oui, malheureusement, on souhaitait bien évidemment que personne ne se fasse bobo, bien évidemment. Mais bon, c'est un peu le côté qu'on attend, on se dit, ah tiens, est-ce qu'il y a une voiture qui va faire une petite sortie et tout, voilà. Pas de bobo, pas de blessé, c'est important. Mais maintenant, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que, même si je trouve que c'est quand même... Il y a beaucoup d'aberrations dans la Formule 1, que ce soit au niveau écologique, au niveau également des placements de produits, enfin de plein de choses. Et surtout, c'est qu'on voit littéralement des millionnaires en fait faire la course, et on voit un petit peu leur train de vie, on voit un peu le spleen des millionnaires juste parce que, oh là là, mon chef d'équipe, il est pas content de ma performance, j'espère vraiment que je ferai mieux, sinon c'est très bizarre. Et pourtant, on peut avoir de l'affection en fait pour ces différentes personnes qu'on connaissait absolument pas. Et vraiment big up aussi aux chefs d'équipe qui sont les vrais stars en fait de cette série. C'est eux qui sont sous le feu des projecteurs, parce que mine de rien, les différents pilotes, on les voit, ça, il n'y a pas de problème. Mais les chefs d'écurie, on en découvre. On pense à Toto chez Mercedes, on pense. Alors comment il s'appelle celui chez Haas déjà
Gunther.
Ah, voilà, Gunther, qui est incroyable aussi, même si voilà, ils sont tous un petit caractère qui parfois peut être un peu naze, on va pas se mentir. Mais. C'est ça qui est incroyable dans cette série, que je pense qu'ils ont compris. Alors toi, tu n'as pas vu les premières saisons, si je ne me trompe pas.
Non, je pense que je suis arrivée sur la quatrième saison.
La quatrième, alors on y reviendra un peu après, parce qu'il y avait des petits soucis sur celle-ci. Mais ouais, au début, c'était très scolaire comme série. Tu suivais les différents pilotes, tu suivais voilà, les écuries. Un épisode, c'était une écurie, si je ne me trompe pas. Et même, c'était très chronologique au niveau du déroulé de la saison. On suivait quasiment Grand Prix par épisode. Et petit à petit, ils se sont rendus compte, ouais, mais bon, les courses, ouais, c'est cool, mais en vrai, ces gars-là, ils ont quand même des trucs à dire, même si parfois, bon, ça... Il y a des choses qui sont pas très intéressantes, on va pas se mentir, de dire, ah oh là là, ma nouvelle voiture, machin, bon, je vais acheter une nouvelle voiture, oh bah mon, j'ai pris un petit pied-à-terre à Monaco, bon, voilà, forcément, ça fait un peu marrer. Quand tu vois le pied-à-terre qui, je pense, est plus grand que n'importe quelle maison ou appart que j'aurai dans ma vie. Et pourtant, ils se sont rendus compte que c'est ça que les gens voulaient. Ils veulent voir quand ces gens s'engueulent entre eux, quand il y a des rivalités qui se créent, quand ils vont parfois craquer devant leur famille, pour leurs doutes sur « est-ce que je suis toujours assez bon ? Est-ce que je suis pas trop vieux pour ça ? Ah quand même, il y a mon coéquipier, il est sympa, mais j'ai peur qu'il me vole la vedette. » C'est très particulier, mais ça fonctionne.
Je reviens un peu sur ce que tu disais. Effectivement, c'est des millionnaires qui font la course tous les week-ends. Ça pourrait prêter à rire, mais comme tu le disais, en fait, c'est au-delà des personnes, c'est vraiment des personnages. C'est quasi de la caricature pour certains. Et de toute façon, à la fin, c'est toujours Verstappen qui va gagner. Mais voilà, c'est des personnages et Netflix a vraiment mis le doigt sur ce qui fonctionne, c'est le storytelling. Et du coup, c'est, je pense, tu vas peut-être me contredire, c'est ce qui arrive dès la saison 4, c'est on va perdre ce côté « je suis une écurie par épisode de façon chronologique ». Là, on va plutôt s'intéresser à des histoires. Qu'est-ce qui va se passer? Comment la rivalité entre Ferrari et Mercedes va évoluer sur tel ou tel ou tel Grand Prix? Et puis l'épisode d'après, on va passer sur McLaren. Comment ça s'est passé? Mais trois prix en avant. Enfin, c'est assez... comment dire? La chronologie est toute pétée. Mais c'est ça qui renforce aussi le storytelling et on arrive à s'attacher ou au contraire à détester ces personnages et ça devient un vrai soap opéra en fait.
Alors oui et non, pour répondre à ta question. Alors oui, Il y a, en effet, on perd petit à petit le côté chronologique, même s'il disparaissait assez vite, en fait, dans les premières saisons. C'est pas vraiment la saison 4, hein, c'est vraiment fait au fur et à mesure des saisons. Hein. Dès la deuxième et la troisième, tu voyais déjà tous ces changements. Et non, parce qu'on garde quand même ce côté, pas un épisode d'une écurie, mais presque. Parce qu'il y a certaines écuries maintenant qui ont dit non, parce que finalement, il y a des dramas qui se sont créés à cause de cette série. Alors, à la fois, cette série a permis une exposition auprès du grand public, bah, nous les premiers, hein, pour le dire, pour voilà, potentiellement être des nouveaux clients de tout l'univers Formule 1, mais également MotoGP et tout. Et ça, ils l'ont bien compris, hein, au niveau de la FIA, donc l'organisme qui gère la Formule 1, que ça pouvait être une publicité assez intéressante. Mais à côté de ça, bah, il y a certaines écuries qui ont fermé leurs portes, au contraire. Donc il y a des fois, certaines saisons, où il y a certaines écuries dont on n'entend absolument pas parler. Bon, au niveau du score non plus, malheureusement pour eux, mais ça, c'est autre chose. Mais comme tu l'as dit, voilà, au final, c'est aller sur ces personnes et vraiment s'attacher au côté, tiens, tel pilote qui lui a vraiment un potentiel de dingue, bah, il n'est jamais dans la bonne écurie. Donc à chaque fois, il ne va jamais pouvoir gagner le Grand Prix, il ne va jamais pouvoir voilà, prétendre à un titre. Pourtant, même si Verstappen bah, gagne tout depuis maintenant 3 ans, et c'est encore le cas, il faut savoir que tous ceux qui sont sur cette piste bah, sont tous potentiellement des champions parce que c'est vraiment l'élite de leur sport à chaque fois. Pour devenir pilote de Formule 1, il y a tout un parcours en fait à faire. Et c'est vraiment les meilleurs qui sont déjà sur le circuit. Donc potentiellement, tout le monde peut être champion. Et c'est ça qui est intéressant aussi à voir, que peut-être, tiens, cette année, il y aura peut-être quelqu'un qui va se détacher du lot. Ah, tiens, Alonso qui est là depuis maintenant un paquet d'années, ah, bah, il revient en force. Et c'est ça aussi qui peut être rigolo et qui forcément crée du storytelling. C'est de forcément pour ceux qui font la série, c'est de leur en barre à chaque fois les rebondissements.
Et quand tu parles d'éternel second, est-ce que tu fais référence à Charles Leclerc ? Le pauvre, il n'est vraiment pas aidé par son écurie.
Alors oui, alors même si maintenant, c'est un petit peu changé, mais alors, c'est terrible, c'est que je dis ça en le sachant, alors qu'à la base, je ne connais pas du tout cet univers, et pourtant, cette série, je ne vais pas prétendre que je connais tous les bails, comme on dit. C'est intéressant de le voir, mais...
De voir tout l'écosystème qu'il y a autour de la Formule 1. Ce n'est pas juste les courses trois jours tous les mois, un week-end tous les mois, mais c'est vraiment l'amont, la préparation, comment on prépare une voiture, comment les ingénieurs l'imaginent, comment ils concrétisent leurs idées, comment une voiture qui n'a même pas été testée en amont parce qu'ils n'ont pas le droit de la tester... Comment le jour 1 au premier Grand Prix, est-ce qu'elle va donner sa pleine performance ou est-ce qu'on va voir des innovations, des améliorations techniques et technologiques par la suite ? C'est assez impressionnant. Mais là, peut-être que je parle un peu plus de mon point de vue d'ingénieur. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est de voir que ce n'est pas juste des athlètes qui font des courses, c'est que vraiment, il y a toute une équipe derrière. Et je trouve que ça rend hommage à ces équipes et que ce documentaire, cette série documentaire, ça rend vraiment hommage à ces hommes de l'ombre qu'on a plutôt l'habitude de bah, soit de ne pas voir ou de juste voir, mais voyez plutôt genre vision périphérique très très floue parce qu'on suit le pilote et comme il va très très vite, et ben, on voit pas ce qu'il y a autour.
Totalement d'accord avec toi, mais par contre, tout n'est pas parfait, il faut le dire. À partir de la saison 4 principalement, il y a quand même pas mal de montage et de magouilles auprès de la prod, qui a par exemple inséré parfois des images de Grand Prix qui n'ont rien à voir entre eux, c'est-à-dire que bah, pour créer un peu de tension sur un moment, bah, ils ont mis des images d'un Grand Prix qui n'avait rien à voir avec celui qu'ils sont actuellement en train de nous montrer. Pareil, ils ont créé des faux appels radio entre les équipiers parfois, ou des faux appels. Bref, une grosse magouille pour créer du drama, pour créer de la tension, ce qui fonctionne très bien, parce que quand moi le premier, oui, même toi, nous deux, on ne connaissait pas du tout la vérité après ça. Et quand on se rend compte qu'on a été un peu bah là, on grince un peu des dents et on se dit, bah, c'est dommage, parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Ils ont déjà tout le potentiel pour faire une super série.
Ah ouais, bah, écoute, j'étais pas du tout au courant de ces petites magouilles. Par contre, on va peut-être pas trop spoiler, hein, il faut laisser les autres aller regarder par eux-mêmes. T'en penses quoi ?
Ah oui, tu as raison. C'est vrai que sinon, je vais trop en dire.
Donc bah voilà, hein, Vroom Vroom to Survive, je ne suis toujours pas la Formule 1, même si bah parfois je me fais peur parce que après un Grand Prix, je vais quand même le lundi matin aller voir les résultats sur mon meilleur journal, savoir bah, si Verstappen a encore gagné, si Charles Leclerc a encore pété une pile. Mais voilà, en fait, maintenant je me surprends à m'intéresser, mais vraiment du point de vue... Résultat, j'essaye de voir un peu comment la saison va évoluer pour essayer un peu de voir comment la prochaine saison de Vroom Vroom sera. Mais je ne vais toujours pas suivre les courses, ça ne m'intéresse pas parce que c'est beaucoup trop long. Et comme tu le disais, le côté voiture thermique qui roule dans le désert, d'un point de vue écologique, c'est moyen.
En tout cas, j'ai hâte comme toi de voir la nouvelle saison.
Et puis, Netflix s'est pas arrêté là. Hein. Il me semble qu'ils ont aussi adapté sur d'autres sports, mais peut-être on pourra en parler à l'occasion d'un autre épisode de Watchlist. Je pense notamment à Drink Drink to Survive.
Ouais, sur le Big Clown. Ouais, peut-être, ouais. On va peut-être en parler, ouais. En tout cas, merci Aline d'être arrivée. C'était un plaisir de pouvoir papoter avec toi de Vroom Vroom to Survive.
Merci Babar, merci à toi d'avoir partagé le micro avec moi. C'est toujours un plaisir de faire des choses ensemble. Et surtout, on vous remercie, vous, de nous avoir écouté parler de Formula One Drive to Survive. C'était un épisode de Watchlist. Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et nous laisser des commentaires, mettre des étoiles, etc., etc. Nous avons aussi un Patreon, si vous souhaitez donner un petit peu pour la vie du label, et également un serveur Discord pour venir papoter entre créatrices et auditrices. À très vite pour un prochain épisode.